sommes vendredi 17 mai 2024. Bienvenue au journal en français du studio Kalangou. Au micro, je suis Rafika Taher. À la une, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Alliance des États du Sahel ont tenu une réunion ce matin à Niamey. La rencontre entre dans le cadre de l'adoption du traité de la Confédération de l'AES. Le ministre de l'Enseignement supérieur a effectué une visite hier à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Des précisions dans ce journal. Et dans la partie magazine de ce soir, vous découvrirez le douma, un tambour traditionnel nigérien. Bonsoir à tous. Ouverture ce matin à Niamey de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre constitue la dernière ligne de l'adoption du traité de la Confédération de l'AES, a indiqué Bakaria Ousangaré, ministre nigérien des Affaires étrangères. Suivez un extrait de son discours dans des propos recueillis par Tarnan Foudé Ahmed.
Cette rencontre décisive est le témoignage éloquent de la détermination sans faille du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger à franchir une nouvelle étape dans la conduite du processus de la Confédération AES. Les présentes assises revêtent une importance capitale en ce sens qu'elles nous permettront de procéder à la validation des textes fondamentaux de notre futur cadre d'intégration, le traité portant création de la Confédération AES et le règlement intérieur du Collège des chefs d'État. En outre, la réunion ministérielle de Niamey constitue la dernière ligne droite vers la tenue de la première session du Collège des chefs d'État de l'AES qui consacrera l'adoption finale des textes fondateurs de notre confédération.
La Banque mondiale a annoncé la levée de la suspension de ses projets financiers au Niger, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Cette reprise des activités, selon l'économiste Adamoulou Cheikh Ibrahim, va souligner la situation des finances publiques du Niger. Par ailleurs, elle permettra la poursuite des projets de développement dans le pays. Il est joint par Moussa Hassan.
C'est plutôt une bonne nouvelle puisque la suspension des aides internationales en guise de rappel a représenté un manque à gagner considérable pour les finances publiques du pays et compromis au passage la réalisation de nombreux projets de développement. Et au-delà d'être un signe d'un raffermissement, voire de normalisation des relations entre le Niger et ses partenaires techniques et financiers traditionnels, cette reprise de coopération arrive non seulement à point nommé en raison de la situation difficile des finances publiques, mais aussi elle devrait permettre la poursuite des projets de développement évoqués précédemment et devront contribuer à terme à l'amélioration des conditions de vie de la population nigérienne.
Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Enseignement et plusieurs autres autorités de la ville de Niamey ont effectué hier jeudi une visite à l'université Abdou Moumouni. Entre autres sujets abordés au cours de leur visite, les conditions d'études des étudiants. Malam Wali Abarchi, secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, UNUN, aborde quelques aspects au micro de Mariama Djermakoué.
Le chantier de la construction du mur de l'université a démarré depuis fort longtemps, mais très malheureusement, ça n'a jamais été réalisé définitivement. Donc voilà pourquoi nous avons exigé à ce qu'il y ait le redémarrage des travaux. Nos camarades sont souvent attaqués, ils sont en insécurité. Il y a une partie de la population de Nogaré qui s'est installée sur le domaine universitaire. Donc du coup, les travaux sont bloqués. Et tant que ces populations-là n'ont pas quitter, il ne peut pas y avoir continuité de ces travaux-là. En dehors de cela, il y a aussi les tentes dites marocaines sont en train de se déchirer, surtout au niveau de la faculté de lettres et sciences humaines. Les étudiants sont en train de prendre les cours avec beaucoup de risques parce que la tente peut tomber. C'était une construction à la hâte qui a été faite. Quelque part, l'entrepreneur a été défaillant. Actuellement, on les cherche même, on les trouve pas. Parce que nous sommes à quelques mois, sinon à 2 mois de grandes vacances. Et nous voulons terminer l'année avant de partir, le 15 juillet.
Un centre numérique dénommé Chimodou Ram a été inauguré mercredi à Difa. C'est le fruit de la coopération du Programme alimentaire mondial et du gouvernement de Luxembourg. Maman Murtala, le gestionnaire du centre, explique l'apport de ce nouveau joyau pour les femmes et les jeunes au micro de Mani Moussa.
Nous avons une équipe des responsables informatiques et ingestionnaires du centre avec des équipes pour assurer la gestion au quotidien de ce centre. Vous avez vu aussi dans ce centre un certain nombre de matériels, notamment des matériels informatiques, des cabines téléphoniques, et il est destiné aux jeunes et femmes réfugiés, déplacés, et populations autochtones de la région de Diffa qui viennent pour vraiment apprendre et comprendre les bases informatiques. C'est vrai, c'est un centre informatique, mais au-delà, ça a créé des petites activités aux jeunes filles et garçons de la région de Diffa, notamment au niveau de cette. Et ça, comme vous le constatez, c'est un projet régional qui couvre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.
Dans la région de Tillabéri, le conseil communal de la jeunesse de Filengué a organisé hier une conférence débat axée sur les valeurs identitaires pour un développement durable, animée par Dr Haruna Garba Assoumane, spécialiste en littérature africaine. Sadi Maïno Sani, premier rapporteur du conseil communal de la jeunesse de Filengué, explique l'objectif visé à travers cette rencontre. Il est au micro d'Abdoulaye Bagassa.
Cette activité, ça rentre dans le cadre du maintien de la paix et la cohésion sociale au sein de la commune, étant donné que le CNSP est en train d'œuvrer pour la sécurité au niveau national. Et nous, à notre niveau, au niveau communal, nous sommes en train d'aider le CNSP pour un développement durable. Voilà, le conférencier a développé bien sûr sa thématique dans le but d'amener les gens à comprendre les valeurs identitaires des Africains d'abord, ensuite des valeurs identitaires étrangères. Donc dans ces débats, beaucoup des intervenants ont eu à dire: pourquoi ne pas baser sur les valeurs identitaires nigériennes? Peut-être dans ça, l'éducation aurait dû être plus facile. Parce que si nous concentrons sur l'identité étrangère, en tout cas, l'éducation serait très difficile pour nous. Et donc, s'il n'y a pas la bonne éducation, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité des uns et des autres.
Un nouveau foyer de la grippe aviaire a été confirmé le lundi 13 mai à Agué, région de Maradi, par le laboratoire central de l'élevage. C'est pour cela qu'un arrêté du gouverneur en date du 15 mai 2024 a déclaré la zone infectée. Le dispositif de surveillance est déjà actif, rassure le directeur régional de l'élevage, Dr Mahamane Amadou Soumaïla, au micro de Mohamed Maman.
Pour ce cas d'Agué, effectivement, il est confirmé. Au niveau du laboratoire central de l'élevage, des échantillons prélevés et analysés ont confirmé la présence du virus de l'influenza aviaire, le type H5N1. À ce stade, nous avons activé toutes les cellules de surveillance et la sensibilisation est de mise pour que la population reste vigilante, en tout cas les consommateurs, afin de parer au désagrément. Dans un rayon de 10 km du foyer, il est interdit d'entrer et de sortir avec de la volaille, de tous les produits aviaires. Et aussi, l'on procède au nettoyage, à la désinfection, conformément aux mesures de biosécurité, d'hygiène et de biosécurité, les lieux infectés. Au niveau ménage, par exemple, les gens doivent être regardants dans la manipulation de la volaille. Ils doivent même au dehors suivre des mouvements anormaux. En tout cas, tout constat de mortalité subite ou à grande échelle de sujets de volaille doivent être déclarés.
Dans le quartier de Niamey, l'on constate des installations anarchiques du courant électrique. Par exemple, à Kouaretegui, dans le deuxième arrondissement de la capitale, il y a eu des cas d'électrocution à cause des fils électriques dénudés, selon le chef du quartier. Mais aujourd'hui, avec les branchements sociaux, la situation s'est améliorée. Daouda Biramou, chef du quartier de Kouaretegui, explique au micro de Moutari Mahamadou.
Au niveau de certaines habitations du quartier, ce sont des fils électriques fixés sous terre ou à travers des poteaux de fortune. Ces installations anarchiques ont causé la mort des riverains. Tout le monde veut de l'électricité. C'est pourquoi les gens font des installations de fortune jusqu'à 500 mètres pour tirer l'électricité. Les fils sont exposés. Face à cette situation, la Nigelec est venue pour sensibiliser la population et a mis en garde les contrevenants. La société a décidé de retirer le compteur des gens qui partagent leur électricité. Maintenant, la situation s'est améliorée. La Nigelec a installé des poteaux. À Kouaretegui, sur 100 personnes, au moins 70 personnes ont de l'électricité.
<t'-> La cérémonie traditionnelle Yenandi des adeptes animistes de Gaïa, débutée le jeudi 9 mai, s'est achevée hier. Cette pratique ancestrale consiste à invoquer les génies pour des prévisions de la saison pluvieuse afin de se protéger contre les éventuelles calamités naturelles. Des précisions avec Mamando Sakwaya, président des animistes Bori de Gaïa, au micro de Fadel Alou.
Cette cérémonie existe depuis la nuit des temps. Ce n'est pas une pratique récente. C'est une manifestation qui s'organise au 7e mois de chaque année, depuis l'époque de nos aïeux jusqu'à notre ère. De nos jours, c'est mon père qu'on appelle Dosakoy qui dirige la cérémonie. Le but de ce rite est de faire appel aux génies afin de leur demander si la saison pluvieuse sera bonne ou mauvaise et tout ce qui adviendra durant cette période. C'est ainsi que, lorsque les génies se sont manifestés, nous leur avons demandé de veiller sur le pays et d'avoir une pluie abondante qui ne fera pas de dégâts. Une pluie qui permettra aux producteurs de faire une bonne récolte. Nous leur avons aussi demandé la bonne marche à suivre pour faire face aux désagréments de cette saison afin qu'elle soit meilleure et généreuse.
Ouvrons une page sport dans cette édition. En football, première victoire ce jour du Ménakadé au tournoi UFOAB U17 qui se tient à Accra au Ghana. Les Nigériens ont battu les Éperviers du Togo sur le score de 3-2. Cette compétition fait partie du tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. C'est un excellent début pour l'équipe nigérienne. Par ailleurs, la 74e édition du congrès de la FIFA a débuté ce matin à Bangkok, en Thaïlande, en présence de plus de 200 membres de l'association. Au programme, entre autres, les sujets concernant les pays organisateurs de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027. Le Niger est représenté à ce congrès par le président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibril Hima Hamadou et deux membres de la Fédération de football. Dès la partie magazine de cette édition, nous vous amenons à la découverte de la confection du douma, un instrument de percussion traditionnel nigérien. On le trouve uniquement dans les régions Hausa. Le douma se joue lors des cérémonies de mariage ou de baptême. Tasiu Bakouwei est un jeune artiste musicien natif de Maradi. Il est l'un des gardiens de cet instrument à percussion grâce au savoir-faire qui lui a transmis son père. Tasiu Bakouwei explique la fonction du douma et sa place dans la culture Hausa. Il est interrogé par Mama Ada.
Le douma est une sorte de calebasse ronde qui n'est pas divisée en deux, comme celle qu'on connaît chez les femmes qui décortiquent le miel. On laisse la calebasse avec une petite ouverture. Si la calebasse est grande, on fait un trou plus large. D'une manière artisanale, avec une corde fine, en peau de chèvre, on coud les deux extrémités de façon à relier les deux parties à la forme d'amulette. La première partie d'en haut est appelée kirinya et celle d'en bas kirinya aussi. Et il y a un autre support en forme d'amulette en palmier qu'on appelle le grand douma. On le recouvre avec de l'huile d'arachide pour que la peau de chèvre soit douce et élastique. Raison pour laquelle si on tape ça, ça donne des sonorités différentes. Par contre, pour le petit douma, on utilise une technique de façon à le coudre et bien l'attacher pour qu'il donne des sons secs, comme si on tape sur une boîte de conserve, en posant l'extrémité du pied pour changer le rythme. Dans la langue Hausa, on l'appelle Sarnegua, d'autres l'appellent Dominia. Il y a aussi Kanzagi, Kurkutu ou Ersaoui. Ils sont tous des instruments de musique. Ils sont cinq qu'on aligne au devant.
Comment reconnaît-on le son de cet instrument de musique douma?
Même de loin, on peut reconnaître le son de douma. Si la peau est recouverte de l'huile, si on tape sur l'instrument, ça donne des sons aigus. Sa sonorité dépasse celle de kalangu, un autre instrument, et n'importe quel autre instrument de musique.
Pourquoi on pose le pied sur cet instrument lorsqu'on le joue?
Pourquoi on pose le pied sur le douma? Ça permet de changer le rythme plus de 60 fois. La signification de poser le pied, c'est seulement pour changer le rythme.
Quel rôle joue cet instrument de musique dans la culture?
Les différents rythmes vont ensemble avec des pas de danse. Quand les jeunes filles sortent avec des objets à vendre, après avoir vendu, on les accompagne avec les rythmes de douma pour s'amuser. La deuxième chose aussi, même pour les cérémonies de mariage, c'est avec le douma. et aussi le dernier jour, c'est avec cet instrument de musique que la jeune mariée est accompagnée. Il y a une tradition qui veut qu'une fille vierge soit accompagnée par des chansons au rythme du douma dans son foyer.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute des programmes du studio Kalangu jusqu'à 18h15 où vous pourrez écouter le forum de la presse présenté par Tarnan Foudé Ahmed.